Bon, voilà, on est donc à fait le nouveau objet du gouvernement créer des dispositifs juridiques qui traitent à la fois de connaissances, de pratiques, de normes, de règles sociales, en définissant donc des objets, des concepts, des objets, des concepts intermédiaires à propos desquels ces apprentissages se constituent, en imaginant des nouveaux instruments d'incitation et de coordination. Bon, on parle des co-conditionnalités, du type médiation, des évaluations itinérées, la question du séquençage des actions, permettant un réel pilotage de tels processus sur les durées. Ça marche, ça, si une durée longue des partenariats, hein, une certaine qualité, une continuité des relations interpersonnelles, une complémentarité des compétences mobilisées par les partenaires, une capacité des acteurs à générer au cours du temps des nouvelles questions de recherche et de nouveaux projets d'innovation. Hein. La position d'exploration, ce n'est pas forcément un problème solving, hein, c'est une situation, voir comment elle se transforme, comment on la transforme, comment on l'accompagne. Une capacité donc des acteurs à construire à partir de ces projets singuliers et nouveaux des champs d'innovation, de nouveaux champs d'innovation et de recherche. Bon, les résultats, on va plus parler de robustesse des connaissances que de validation, que de validité des connaissances. Et la robustesse des connaissances produites repose sur la pertinence des modèles produits et utilisés et celle des dispositifs conçus pour un travail collectif. L'identification de phases dans le processus de collaboration, l'analyse des référentiels des lieux à l'origine de l'élaboration des idées et des actions, et des données originales in situ, et des normes localement satisfaisantes, mais aussi des heuristiques qui sont transportables. Hein, on n'est pas dans la production de lois universelles, mais dans la production de principes de raisonnement qui soient transportables entre des situations. Et du coup, des catégories qui sont nouvelles, à la fois pour la science comme pour l'action. Alors les apprentissages là-dedans, je reviens un peu la littérature que j'ai trouvée, je trouve intéressante, elle est plutôt anglo-saxonne. Donc c'est autour de ce qu'on appelle social learning, hein, c'est-à-dire de rappeler dans la notion de social learning que l'apprentissage, l'objectif, c'est une propriété émergente d'un système d'interaction, c'est pas exempté. Hein, que l'introduction, là aussi on va retrouver la même chose, hein, nouvelles connaissances, valeurs, fonctionnement. C'est ça qui va créer la capacité exploratoire et de créativité de changement. Que c'est fondamentalement contextuel et que c'est lié aux pratiques de recherche, comme des pratiques des différents types d'acteurs ou de parties prenantes impliquées, et que ça ne s'arrête jamais, hein, c'est un processus permanent. Et que ça peut déboucher sur ce qu'on appelle les communautés de pratiques. Je ne sais pas si je vais le développer là, ce n'est pas forcément utile. Deuxième voie, un petit peu, pour justement introduire après ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'approche en termes de soft system, hein, que Checkland a distingué des hard systems. Dans les hard systems, les objectifs ils sont donnés a priori. On va le retrouver dans tout ce qu'on n'a pas beaucoup discuté tout à l'heure, de la différence projection-prospective, par exemple. Tout le monde des projections... Tout ce que fait la FAO et la Banque mondiale et ses grands organismes, c'est l'utilisation de modèles mathématiques dans lesquels, bien sûr, les objectifs sont dans les paramètres de construction du modèle. Et là, les soft systems, ça veut dire que les objectifs, ils sont le produit du système d'interaction, ils sont dans la constitution. Et on ne se donne pas d'objectifs a priori. Tout ce que je vous raconte là, on est dans ces situations-là. Bon, je pense qu'il faut que c'est peut-être que... De toute façon, je pense que si vous voulez, je vous passerai les diapos, puis ça peut... Vraiment, je ne sais pas s'il faut que je le développe là. Hein. C'est donc toujours cette question de se dire, les produits, ils émergent du système d'interaction. Ce n'est pas quelque chose qu'on rentre et qu'on fait accepter, ou qu'on fait discuter, ou sur lequel on consulte. C'est ce qui va émerger du système d'interaction qu'on va créer. Et du coup, ça va beaucoup dépendre de la position des uns et des autres, et entre autres, de quelque chose qui est important chez Checkland dans tout le soft system qu'on va retrouver, c'est la notion de point de vue. Hein. C'est-à-dire que chacun a des points de vue sur la situation qui sont liés à son état, à sa manière d'agir, à son histoire, à sa culture. Et c'est bien autour de ça aussi qu'il faut travailler et qui doivent être énoncés. Et puis donc, c'est bien, on cherche pas, il n'y a pas un problème qui est donné. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qui sont impliqués dans cette action disent que cette action est problématique? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une situation Un problème, ce n'est pas un problème. Un problème n'existe pas en soi. Un problème, il est posé, il est énoncé, et il est ensuite partagé, non partagé, transformé. Et puis toujours les mêmes idées, hein, tout ça se fait dans l'action. C'est donc bien une capacité justement pour changer les choses en s'impliquant dans ce genre de dispositif. Donc, un système d'apprentissage, bon, c'est des interactions, c'est le produit de la transformation, c'est les propriétés émergentes qui comptent, c'est ça boucle et ça se reboucle. Bon, c'est voilà, censé être pas déterministe, apporter quelque chose à chacun, hein, et justement, là, voilà, bon, ça fait des modèles comme ça, hein, d'interaction, voilà, pour vous dire le genre de travail qui se fait, hein, là-dedans. Et on va dire justement, voilà, pour revenir au modèle des villes australiennes, ben on va y arriver par de l'interaction, par de la coordination performante, hein, d'où les métaphores musicales. Et puis passer de gouvernance à governing, de management à managing, hein, des choses comme ça par la question du learning. Donc, qu'est-ce que c'est que le social learning? Ben, c'est justement un mécanisme de gouvernance qui fait du governing, c'est des cadres conceptuels, c'est des principes opératoires et c'est un enjeu systémique. Et là, un petit peu, trois niveaux de changement qu'on peut attendre dans ces situations-là, ce qu'on va appeler les changements de premier ordre, qui amènent, en fonction des conséquences observées d'une action, à changer les protocoles de réalisation de ces actions. On vient par exemple, pour prendre des exemples plutôt dans mon monde, la pollution de la nappe phréatique par des engrais, eh ben on va, au lieu de balancer les engrais d'un seul coup quand les sols sont dus, on va les balancer en plusieurs fois quand la plante en a besoin, et on a mis en place des petits systèmes d'indicateurs qui nous disent à partir de la sève du blé à quel moment il faut en remettre. On peut passer à des changements de deuxième ordre qui vont se dire pour la même question, on ne va pas balancer de l'engrais minéral, mais on va balancer des matières organiques, et puis c'est le sol lui-même qui va les transformer, et du coup c'est en agissant sur le sol. Donc on va revoir la théorie de l'action. Hein. C'est pas, en gros, on considère que la plante est tout sur le sol est un substrat neutre. Et la plante, elle va se nourrir des engrais qu'on va mettre, de l'azote, du phosphore, du potassium, et puis avec la photosynthèse. Non, on se dit, ah, le substrat, il n'est pas forcément inerte. C'est aussi un processus biochimique qui peut changer la matière organique en éléments absorbables par une plante. Donc on change le cadre de théorie de l'action. Et puis les changements de troisième ordre, ça serait de se dire, mais attends, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner l'agriculture. C'est par des associations de plantes, des rotations, mettre des légumineuses avec des céréales, donc des plantes qui fixent l'azote avec d'autres qui ne le font pas, et revoir complètement autrement tout le système. Et bon, les choses qu'on évoquait tout à l'heure, hein, aller vers une sortie des modèles, j'y reviendrai très rapidement pour conclure. Donc si on revient à ça, je veux dire, on va, voilà, bon, les grandes questions, je ne vais pas les développer, je m'arrêterai juste quelques mots sur la dimension épistémologique, dans la mesure où qu'est-ce que ça en renvoie à la recherche? Ça renvoie à que la recherche va se trouver confrontée à des notions comme interdépendance, complexité, incertitude, controverse, bon, diversité d'attentes. C'est pas comme ça que la recherche elle a travaillé depuis deux siècles, et en tout cas pas depuis les 50 dernières années, majoritairement. Donc, grand bouleversement, comment est-ce qu'on s'y prend par rapport à ça? Comment est-ce que on cadre, hein, comment est-ce qu'on donne le cadre d'une situation, comment est-ce qu'on problématise dans cette situation-là. Et c'est là que je renvoie un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement, donc en quoi une pensée systémique, donc une pensée systémique, c'est de se projeter soi-même, enfin de dire que le système n'existe pas, on n'a pas à découvrir le système comme ça, mais c'est une façon que je vais avoir pour traiter une situation. Je vais la regarder comme un système, et donc moi-même, de ce coup, je fais partie en tant que concepteur de ce que je vais appeler le système, je fais partie moi-même, hein, de ce qu'est le système dans lequel on va identifier donc le praticien lui-même, les cadres théoriques, la situation dont on veut rendre compte et les méthodes. et le faire à plusieurs, hein, et confronter à plusieurs dans le processus d'apprentissage, justement, comment est-ce que se construit, on peut construire une vision systémique, hein, d'une situation pour savoir comment la concevoir et agir dessus. Bien souvent, bien sûr, la recherche se focus sur la méthodologie. Hein, ce qu'on sait faire, c'est mesurer, c'est modéliser, c'est aller enquêter, machin. On sait tous qu'il y a un danger quand même à rentrer par l'outillage, parce qu'on pense tout, hein, comme à partir de l'outil qu'on sait maîtriser. Je pense que dans les domaines dont on parle là, c'est quand même la modélisation et la modélisation économique qui est la plus exemplaire. Derrière, justement, il y a cette diversité quand même d'approches systémiques. Ça, c'est une ontologie un peu de la pensée systémique, en distinguant, on y reviendra s'il en a besoin, en distinguant deux grandes formes de pensée systémique. Voir les systèmes donc, comme une ontologie, et voir les systèmes comme une épistémologie. Bonne partie des chercheurs reste quand même sur voir comme une ontologie, c'est-à-dire qu'il y a un système qui existe, on essaie d'en rendre compte, de le mesurer. Comme une épistémologie, c'est ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire c'est une façon de traiter une situation et de traiter la réalité. Je la vois comme un système. Et dans ce cas-là, je me le construis, le système, y compris ses limites et les opérateurs qui font ce système. Alors maintenant, je ne vais pas... Et on est quand même chacun marqué, justement, par les cultures d'où on vient. Bon, de plus en plus, on sait bien que la manière dont on voit les choses, elle n'est pas indépendante de notre capacité d'émotion, de notre propre sensibilité, et de la manière, d'ailleurs, sur ces questions-là, dont on a soi-même un point de vue. Je veux dire, on n'est pas indifférent à la transition écologique ou énergétique. Donc souvent, on est confronté à ça. Hein. Pour certains, bon, c'est vraiment... faut que je trouve là-dedans ce qui fait système et que je vais pouvoir mesurer, objectiver, modéliser. Et puis, après tout, je vais me dire, la situation, je vais la regarder comme un système, ne serait-ce que pour savoir, justement, où sont ses limites, quels sont les opérateurs et comment est-ce qu'on peut agir là-dedans. J'ai envie de dire, combinons les deux, et on en a peut-être de plus en plus besoin aussi, si on veut avancer, parce que, bon, il ne faut pas non plus... voilà. Disons-nous pour terminer sur ce point-là, quoi, que c'est un outil épistémologique et c'est une façon de se traiter une situation. Bon, connaissance sur quoi, je pense que on a, voilà, longtemps les questions justement d'agriculture ont été traitées comme ça, hein, avec il y a l'élevage, et puis il y a les agricultures, et puis. Il y a l'écologie, et puis il y a le point de vue du sociologue, et puis etc. Et puis etc. Je crois qu'on a compris qu'on essaye maintenant de se dire non, ce qu'on va appeler le système, l'agricultural system, c'est complètement une interface entre le monde biophysique et le monde social, et donc les lectures qu'on peut avoir sur les écosystèmes, sur les systèmes sociaux. Hein, et c'est même plus que ça, c'est-à-dire en fait... L'enjeu, alors, non, j'ai perdu celui-là, non, je ne le vois pas bien sur le... L'enjeu, oui, ici, si, l'enjeu, il est bien sur l'ensemble de cela, et le fait que le système social, il est aussi dans le système biophysique, et que le système biophysique, il est aussi une production du système social. Hein, et que le lien qui est entre les deux, ce n'est pas deux mondes qui se rencontrent, c'est un lien, c'est, là aussi, on va dire, c'est un dualisme, ce n'est pas une dualité. Et on est bien face à, dans notre domaine, une question de compréhension institutionnalisée. Beaucoup de pratiques agricoles, forestières et halieutiques de nos jours ne sont pas durables, voire même contre-productives, parce qu'elles raisonnent uniquement comment des ressources peuvent être produites et exploitées, plutôt que de concevoir les ressources comme dynamiques et se transformant elles-mêmes du fait de leur connexion à des écosystèmes complexes. La durabilité doit ainsi être vue comme une propriété émergente des interactions entre les acteurs et l'environnement, et non pas comme une qualité intrinsèque et technique de l'écosystème. D'après, je me réfère à un philosophe américain qui va distinguer deux points de vue un peu sur les ressources, la manière dont une vision, ce qu'il appelle resource sufficiency, une vision utilitariste de la nature, dans laquelle les ressources sont vues comme un capital donné, un stock, qui est en abondance, qui est renouvelable, qui est critique. Si il est renouvelable ou critique, le maintien de la durabilité face au déclin du stock s'obtient soit en réduisant le taux de consommation de la ressource, soit en augmentant l'efficacité avec laquelle la ressource est produite, soit en lui substituant d'autres ressources. Il n'y a qu'à voir, ça existe dans l'agriculture, pensez à l'énergie, on a tout à fait ce modèle-là. Ils se fondent donc sur le principe qu'un agroécosystème peut être abordé à partir du simple bilan entre la production et la consommation des ressources, que les interactions en son sein sont considérées comme suffisamment stables pour être ignorées, et donc il n'y a pas d'incertitude. Et il débouche donc sur des politiques qui visent à valoriser seulement l'efficience, on en a parlé tout à l'heure, et il oppose cette vision à celle qu'il qualifie de « functional integrity ». Dans ce cas-là, on est face à un processus coévolutif. Les ressources émergent des interactions au sein d'un socio-écosystème, ce n'est pas un stock donné. Et maintenir leur durabilité repose sur l'identification des points critiques pour son fonctionnement et sur l'amélioration technique, sociale des modes de gestion, vu comme un ensemble d'activités par la révision des rôles et des modalités d'interaction entre les parties prenantes, tout ce que je vous raconte depuis un certain temps. Maintenant, je n'ai pas regardé ma montre non plus. Il s'appuie sur des politiques dont la mise en œuvre tient compte des conditions locales. Ils sont contextualisables et adaptables, et les effets sont observables et évaluables, ce qui exclut les objectifs centralisés, les prescriptions normalisées. Donc dans notre monde, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on va vers une rupture conceptuelle, dans laquelle on passerait d'un cadre dans lequel un agroécosystème est vu comme la somme des transformations en consommation et consommation par rapport à la production, dans cette relation un capital donné, des technologies pour exploiter les ressources, dans un environnement considéré comme stable et prévisible, à un pilotage, on dirait là en anglais stewardship, de fonctionnalités des écosystèmes, des fonctionnalités afin de faciliter les services écologiques, comme on en parle maintenant, l'acquisition de savoir et de compétences, les capacités d'adaptation au changement, qu'ils soient climatiques, politiques, de valeurs ou de normes, à partir de nouveaux concepts. On va employer des mots comme dynamique, sol, résilience, noyau de viabilité, processus d'apprentissage et action collective, qui ne sont pas à la base de la formation des chercheurs, et certainement pas en agronomie ni en écologie, fondée sur une coévolution et des interactions entre le système, son environnement, en situation d'incertitude. Bon, ça, je vais passer ça. Voilà, en gros, on va terminer là-dessus. Du coup, deux façons actuellement de se positionner, deux visions en fait, qui sont des visions du rapport du monde au monde vivant. Le voir comme un processus industriel ou industrialisable qui transforme des inputs en outputs, c'est le faire, la techné, à partir d'artefacts fondés sur la stabilité, l'homogénéisation de ce qui est divers, la réduction de l'incertitude et les ressources considérées comme un stock. Bien sûr, ça, c'est la puissance de la technique et de ce qui se réagisse depuis 50 ans dans le monde agronomique. Passons sur d'autres domaines. Et c'est jugé sur ses succès, là, qui est sur les questions de productivité par travailleur, par hectare, par animal. Et une autre façon de regarder ça, qu'on appellerait le faire avec, c'est-à-dire de prendre le rapport au vivant comme une dynamique transformative à orienter ménager dont on fait partie. C'est plutôt le domaine de la physique. Des comportements évolutifs, non prévisibles, les ressources émergent des interactions, il s'agit bien de tirer parti de la complexité. Et là, bien sûr, ça s'est jugé sur les limites du savoir et ses insuffisances, c'est la question qu'on pose en permanence, est-ce que vous êtes capable de nourrir l'humanité avec l'agriculture biologique ou avec l'agroécologie, alors que regardez ce qu'on a fait, nous, avec la révolution verte sur le modèle industriel. Donc, deux pratiques des relations nature-culture, les voir comme un dualisme, avec une séparation naturelle. Position du naturalisme, une disposition normative, la biodiversité devient un objet qu'on va étudier avec des valeurs, des hiérarchies, ou bien le voir comme une dualité, c'est-à-dire comme un système de relations, une façon de se situer soi-même dans un milieu, s'intéresser du coup à la biodiversité ordinaire, au processus de domestication, qui est un pur produit de cette interface entre ces deux mondes, qui ne sont peut-être pas deux mondes, qui sont justement les deux faces du même monde. Les techniques ont leur histoire propre, qui est indépendante des cadres théoriques. Dieu merci, et les techniques, elles n'ont pas attendu la production des théories pour être produites. Bon, et puis des débordements, je pense qu'on en parlera s'il y a besoin. Car voilà. Derrière ça, faire attention de nos jours dans notre monde, quand même, où c'est particulièrement... Le débat est fort, mais je pense qu'il y en a vraiment d'autres. Quel est l'élevage pour demain, le modèle universel tel qu'il est en train de se développer. Ou bien quelque chose de plus différent et de plus en copilotage et en coévolution avec le reste du monde. Bref, apprendre derrière tout ça, aussi par ces processus, à retourner, à garder un regard, une réflexivité sur les choses qui vont de soi. Je m'arrêterai là. Merci de votre attention.